Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église. Merci d'être fidèle à cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau rendez-vous lancé tout récemment, les mardis des semaines sociales de Toulouse. Il s'agit de tables rondes, d'ateliers de réflexion et d'échanges sur des sujets qui nous concernent tous. Le 2 juin, il y a eu une première rencontre sur le thème « Démocratie et pauvreté ». Et le 30, il y en a une autre, cette fois-ci sur le thème « Démocratie et écologie ». On en parle dans quelques instants avec les trois invités de ce numéro. Et je salue ces trois invités, Marie-Christine Monnoyer, Pierre Chastrus et Hervé Schindler. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes tous membres des Semaines Sociales de Toulouse et vous avez participé à la table ronde du 2 juin. Vous participerez aussi à celle du 30. Avant de revenir sur la première et de présenter la seconde, je voudrais qu'on rappelle à nos auditeurs ce qu'est précisément cette association, parce que c'est une association, bien que son nom soit peut-être trompeur, ce que sont sa raison d'être et ses activités. Marie-Christine Monnoyer, peut-être pour nous faire cette présentation.
Bonjour, les Semaines Sociales de France sont centenaires et on va fêter cette année officiellement les 100 ans des Semaines Sociales et ça se passera au Bernardin à Paris. Donc c'est une vieille association qui a été créée par des gens qui réfléchissent et qui se disent qu'il faut aider par la rencontre les hommes et les femmes à se saisir de questions qui sont difficiles, qui les interpellent et pour lesquelles il faut un peu de temps pour discuter. L'année dernière, par exemple, les Semaines Sociales de France avaient proposé comme thème l'intelligence artificielle. Cette année, le thème est encore un peu flou, donc je ne le dévoilerai pas. Ce qui est peut-être important, c'est que les Semaines Sociales de France ont des petites filles, on les appelle des antennes, dans un grand nombre de villes en France, et donc évidemment à Toulouse. À Toulouse, les Semaines Sociales de Toulouse existent depuis une trentaine d'années.
Voilà, on peut dire que c'est un lieu de formation et de débat qui est ouvert à tous, ça c'est important aussi de le dire, à travers donc des colloques, des contributions écrites.
Parce que il y a un superbe site web, Semaines Sociales de France, sur lequel on peut trouver de multiples communications écrites sur des thèmes d'actualité. Et puis, il est aussi possible, via les Semaines Sociales de France et généralement en visio, de suivre des conférences qui sont données par des personnalités sur des thèmes un peu pointus, mais quand même extrêmement accessibles.
Le fond, ce sur quoi vous vous appuyez beaucoup, c'est la pensée sociale chrétienne, la doctrine sociale de l'Église.
La pensée sociale chrétienne, ou la doctrine sociale, on l'appelle souvent la DSE, cette pensée sociale chrétienne repose sur un certain nombre de fondamentaux qui sont très liés au respect de la personne humaine, mais aussi à des points qui parfois ont une connotation beaucoup plus managériale, comme par exemple la subsidiarité. Subsidiarité voulant dire que la décision ou l'analyse est faite au niveau le plus actuel, le plus précis de l'action qui peut être menée par la personne. Donc vous voyez qu'il y a une conception dans cette doctrine sociale chrétienne très profondément liée au respect de l'intégrité de la personne humaine et à son potentiel développement tout au long de la vie, quelles que soient les circonstances.
Il y a une chose qu'il faut qu'on précise aussi concernant ces mardis des semaines sociales de Toulouse, et le de Toulouse n'est pas un hasard, c'est que c'est une initiative purement et spécifiquement toulousaine, en tout cas pour l'instant.
Alors, toutes les antennes sont parfaitement libres d'organiser leur programme de rencontres, de discussions, etc. Et les questions qui peuvent être traitées peuvent être très liées à ce qui se passe dans la région. En ce qui concerne les mardis des semaines sociales de Toulouse, ça n'est pas particulièrement lié à ce qui se passe dans la région. Ce que nous avons voulu lancer dans une année un peu spécifique sur le plan démocratique, nous avons voulu lancer des réflexions pour permettre à tous ceux et toutes celles, c'est-à-dire à tout le monde, qui se posent des questions qui concernent des points complexes, concrets, inquiétants de notre civilisation, eh bien, d'y réfléchir ensemble entre citoyens de base et non pas avec des grands spécialistes, parce qu'au fond, même entre citoyens de base, on a des choses à échanger, des choses à mieux comprendre et à partager.
Oui, parce que c'est ouvert vraiment à tous et toutes, qu'on soit spécialiste ou pas du tout du sujet qui est traité, et qu'on soit chrétien ou pas, là aussi,
absolument.
Il faut le dire.
Absolument, c'est ouvert à tous. J'ai envie de dire de 15 à 102 ans, c'est-à-dire toutes les générations. Et pour nous, cette histoire intergénérationnelle, elle est importante. Parce que, quels que soient les thèmes que nous allons travailler, eh bien, il y a toujours une dimension intergénérationnelle. Et je pense que quand on abordera le sujet du 30 juin, la dimension intergénérationnelle ressortira très profondément.
Sous quelle forme se passent ces mardis? Où et quand? À quelle heure? De quelle heure à quelle heure?
Alors, ces mardis, nous allons essayer de les réaliser une fois par mois pendant tous les mois qui viennent. Évidemment, pas au mois d'août, parce que, bon. Mais ça se passe un mardi de 18h30 à 20h. Évidemment, l'horaire n'a pas été choisi au hasard pour permettre d'y aller après les activités professionnelles, par exemple, ou les activités scolaires et étudiantes. Ça se passe salle Claret, c'est-à-dire juste à la sortie du métro
Pas-de-Doie.
Voilà, juste à la sortie. C'est une salle qui nous est prêtée par l'église du Sacré-Cœur et qui est bien connue pour accueillir des activités de formation diverses.
En tout cas, à la fin du 19e siècle, il y avait les mardis de Stéphane Mallarmé, rue de Rome, à Paris, au domicile du poète. Ben maintenant, il y a les mardis des semaines sociales de Toulouse. Deux rendez-vous en juin, donc autour des thèmes démocratie et pauvreté, puis démocratie et écologie. Pourquoi vous avez retenu ces deux sujets? Parce qu'il y a une actualité et une urgence autour de ces sujets de démocratie et pauvreté, démocratie et écologie.
Alors, le premier sujet était démocratie et pauvreté. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque le chiffre de 10 millions de personnes pauvres est apparu sur les journaux ou dans les statistiques, on s'est dit que cette question de la pauvreté, elle prenait une ampleur qui ne pouvait pas laisser indifférents les hommes et les femmes de notre temps. Mais aussi, elle voulait aussi dire qu'il était sans doute indispensable de changer notre regard sur la pauvreté et de comprendre comment cette évolution de la pauvreté avait été possible dans un pays démocratique comme le nôtre, et quelles étaient les conséquences de la pauvreté sur le fonctionnement de notre démocratie.
Je vais passer la parole à Hervé Findler et Pierre Chastrus pour aborder un autre élément que vous proposez à ceux qui sont intéressés par ces mardis. C'est qu'avant chaque mardi, il y a un podcast qui est mis en ligne pour présenter le contenu des échanges, des sujets qui sont abordés. Donc je voulais savoir combien de temps dure ce podcast, qu'est-ce qu'on peut y entendre, quelle est son utilité en fait, Hervé Findler.
C'est très simple. L'idée, c'est de faire écouter par ce podcast aux auditeurs le fait que des personnes qui ne se connaissent pas, en général il y a 3 ou 4 personnes, peuvent réfléchir et peuvent parler sur un sujet complexe sans être spécialistes. Et de les entendre vivre cet échange, ce dialogue, sans que l'un cherche à convaincre l'autre, simplement en essayant de comprendre la pensée de l'autre et de pouvoir ainsi faire évoluer la sienne, peut-être, de pouvoir préparer les réunions publiques qu'on peut avoir après. Où c'est un peu le même processus qui se passe, parce que dans les réunions publiques, les gens ne se connaissent pas forcément, ils s'inscrivent pour qu'on puisse préparer la salle, bien sûr, mais ils sont les bienvenus sur le moment où ils sont disponibles. Et ils vont rencontrer fatalement des personnes qu'ils ne connaissent pas, qui ont peut-être des idées différentes. Et dans un cadre convivial, en toute sécurité de parole et de respect de chacun, ils vont pouvoir dire leur dignité humaine par la parole, ce qu'ils pensent du sujet. Et moi, je me rappelle quand on a cherché les premiers intervenants, j'ai appelé des personnes que je connaissais par mon réseau professionnel et que j'avais un peu perdu de vue pour certains. Et quand je les ai appelés, ils m'ont dit « mais j'ai rien à dire, c'était sur démocratie et pauvreté, mais j'ai rien à dire sur la pauvreté, puis il faudrait une définition de la démocratie. » Et en parlant un
et
petit
la
peu...
la pauvreté aussi, pour certains, et de, on n'a pas tout ça.
Effectivement. Et en parlant un petit peu, ben, ils se sont vite rendus compte que, ah oui, ils ont des choses importantes à dire, qui leur tient à cœur, et qui me semblent importantes de partager en démocratie avec le tout venant, hein, qui vient et qui a envie de réfléchir sur les sujets de société.
Pierre Chastrus, sur l'utilité de ces podcasts et la façon dont ils préparent le terrain, parce que c'est vraiment ça, le terrain de la discussion et de l'échange.
La préparation là, de la rencontre est éclairée justement par ce débat entre trois personnes. Et c'est autre chose que d'avoir simplement un titre, c'est d'avoir, si l'on peut dire, le point de vue de personnes anonymes d'abord, hein, et donc ce qui les laisse totalement libres, mais en même temps qui se situent sur, comment dire, sur des points différents. Hein. Donc je peux parler plus facilement de celui qui s'est préparé là, pour l'écologie et démocratie. On a contacté un agriculteur qui est concerné directement justement par les problèmes écologiques et leurs retombées, hein. Bon, qui en plus est diacre de notre diocèse, ce qui permettait d'avoir des atomes crochus. Hein. Une personne qui se passionne par la connaissance de ces problèmes, donc plus quelqu'un de scientifique, hein, et une mère de famille, il y a une activité professionnelle, qui pouvait être Madame Tout-le-Monde, et qui justement... dialoguer librement, voilà. Donc c'était de préparer la venue de personnes qui ne sont pas des abonnés à Internet, si l'on peut dire, en tout cas fanatiques, hein, qui ne restent pas enfermés dans dans une spécialité et qui se posent les questions que un petit peu tout le monde se pose, mais avec un angle à chaque fois différent, des émotions un peu différentes aussi. La question des émotions était très sensible, je me souviens, par contre, pour la question de la pauvreté et démocratie. Il n'y a pas qu'une connaissance intellectuelle à avoir.
Absolument. Où est-ce qu'on peut y avoir accès à ce podcast? On le trouve où? Sur YouTube, sur des réseaux?
Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. Il est sur la plateforme de Radio Présence. Et puis, nous avons contacté tous ceux qui sont déjà venus, tous ceux qui connaissent les semaines sociales. Et puis, il est aussi sur la plateforme du diocèse proprement dite, puisque le diocèse a accepté de mettre cette information à la disposition de tous ceux qui vont de temps en temps sur la plateforme du diocèse.
Nous allons revenir maintenant sur le premier mardi, celui du 2 juin, consacré donc au thème démocratie et pauvreté. Sous quel angle était abordé ce sujet, qui est assez vaste? Est-ce qu'il y avait des ateliers avec des sous-thèmes qui étaient reliés au sujet général, ou est-ce que chaque groupe réfléchissait au même sujet, aux mêmes questions?
Alors, en fait, comme la population qui est venue, les personnes qui sont venues, étaient très différentes, les ateliers, les petits groupes ont évolué de façon différente. Il y avait des personnes qui étaient en situation de très grande pauvreté et donc qui ont expliqué ce qu'elles vivaient dans la très grande pauvreté, les besoins qu'elles n'arrivaient pas du tout à satisfaire et l'exclusion qu'elles ressentaient. Cette question de l'exclusion a été extrêmement sensible. Elle rapprochait d'ailleurs profondément de notre problématique sur la démocratie. Parce que lorsqu'on ne se sent pas écouté, lorsqu'on se sent exclu, pourquoi voulez-vous qu'on aille voter? Pourquoi voulez-vous qu'on s'inscrive dans une association? Vous voyez, là, je prends la démocratie au sens large. Au fond, le fait de se sentir exclu conduit à une auto-exclusion. On s'en va, puisque, en fait, on n'attend rien. Et comme le disaient les personnes en grande pauvreté, quand vous êtes très pauvre, vous êtes extrêmement occupé pour rechercher les moyens de survie. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de temps. Vous êtes constamment en train de dire bonjour monsieur, bonjour madame, ou d'aller là où vous pourrez avoir de l'eau, là où vous pourrez avoir des vêtements, là où vous pourrez dormir, là où vous pourrez vous occuper de vos enfants. Donc ce point-là était très important. L'autre point qui est apparu aussi sensible et très important, c'est l'incompréhension pour certains de ce qu'était la pauvreté. Beaucoup de personnes ont dit, mais comme moi je ne me sens pas pauvre, comme je ne suis pas pauvre, comment puis-je regarder, comprendre celui qui est pauvre? Au fond, vous savez, c'est un petit peu comme quand on est très malade. Quand on est très malade, on ne pense plus qu'à sa maladie. Et ceux qui vous regardent ne savent pas vous parler d'autre chose que de votre maladie. Eh bien, pour la pauvreté, c'est la même chose. La question, c'est que la pauvreté, elle a une relation avec notre vivre ensemble et avec notre façon de considérer et de penser la démocratie.
Hervé Findler, vous, qu'est-ce que vous avez retenu des échanges lors de cette première journée sur le thème donc démocratie et pauvreté ?
Alors moi, j'ai entendu quelques témoignages, dont un qui m'a fait chaud au cœur quelque part, au moment où on expliquait le seuil de pauvreté, qu'est-ce que c'est, 60% du salaire médian en dessous, c'est le seuil de pauvreté. Et une jeune femme qui était là, qui disait, mais ça fait combien exactement ? Ah, mais je suis pauvre alors. Mais pourtant, je vis bien. C'était une découverte pour elle. On avait mis une étiquette dessus, la société mettait une étiquette dessus.
Statistiquement parlant, comme...
Voilà, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a ça qui est quand même très, très intéressant. Et ça ne l'a pas gêné plus que ça. Elle avait le caractère à pouvoir se retirer les étiquettes sans problème, ce qui est quand même très bien. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est dans des situations où on est exclu ou caractérisé, où on est pris par autre chose, on a une relation au temps qui est totalement différente de celle de la société, où tout le monde a une activité professionnelle, où on croit en tout cas tout ça. Et donc le rapport au temps est différent. Et c'est vrai ce que disait Marie-Christine, à partir du moment où on court pour faire ci, pour faire ça, pour pouvoir vivre avec le maximum de dignité possible, un calendrier électoral, mon Dieu que c'est loin. Et les quelques informations qu'on peut glaner, on n'y comprend pas forcément grand-chose parce qu'elles sont toutes contradictoires avec des slogans et on ne prend pas forcément le temps de réfléchir. Et là, j'ai trouvé intéressant de voir des personnes qui, proches d'ailleurs de personnes en grande pauvreté, qui disaient « c'était intéressant d'entendre une autre opinion que la mienne ». De pouvoir progresser, ou faire progresser plutôt, on le prend comme on veut. Et donc de pouvoir que les personnes se rencontrent et de reconnaître qu'elles sont toutes dignes et qu'il n'y a pas des personnes d'une catégorie sociale plus intéressantes que d'autres, c'est pas vrai.
Pierre Chastrus, vous, qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans tous les échanges qu'il y a pu y avoir le 2 juin ?
Alors, ce qui m'a marqué, c'est la solitude de ces personnes, comme l'a dit Marie-Christine tout à l'heure, qui courent après les moyens d'existence, comme l'a dit Hervé, qui sont écartés par les procédures administratives, qui n'y comprennent rien, et parfois qui n'ont pas d'aide pour ça. Mais en même temps, une personne qui est dans cette situation-là et qui est maintenant a choisi justement d'accompagner des personnes en situation de pauvreté. Bien entendu qu'il y a une compétence particulière, puisqu'elle a connu cette situation-là, mais ce qui est apparu et ce qui a été évoqué par le Secours catholique notamment, c'est ce désir maintenant d'essayer de faire avec ces personnes et non pas pour ces personnes, parce qu'effectivement, ce sont elles qui sont le mieux placées pour dire ce dont elles ont besoin. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est déjà effectivement d'être attentif au voisinage et de savoir qu'on peut faire quelque chose, on a été dans le concret.
Marie-Christine Monnoyer, vous étiez combien là pour ce premier rendez-vous ? Je suis assez intéressé de savoir s'il y avait aussi des jeunes qui se sont impliqués en venant à ce rendez-vous, ce premier rendez-vous.
Alors soyons vrais et soyons simples, nous étions 25. C'est donc pas une foule considérable.
C'est une première.
C'était une première et c'était une autre façon de discuter. Par rapport à ce que proposaient autrefois les semaines sociales de Toulouse, nous sommes passés à quelque chose d'extrêmement concret, simple et sans tête d'affiche. Autrefois, c'est pas très vieux, on cherchait toujours à avoir des têtes d'affiche.
Oui, ça existe encore, ça.
Oui, parce qu'on avait l'impression qu'elles pouvaient apporter un point de vue original, différent, et donc être attractif. Aujourd'hui, on s'est dit que les têtes d'affiche, c'est très intéressant.
C'est
tout à fait utile. Mais qu'au fond, donner la parole à Monsieur Tout-le-Monde ou à Madame Tout-le-Monde, c'était peut-être aussi attractif, puisque on n'a pas si souvent que cela l'occasion de dire, mais moi je pense ça, en particulier pour des thèmes aussi complexes. La pauvreté, ce que rappelait Hervé il y a quelques minutes, montre qu'au fond, tout le monde ne vit pas la pauvreté de la même façon. Certains sont extrêmement exclus, d'autres le sont moins, et la pauvreté n'est pas uniquement une question financière. C'est aussi une question sociale, relationnelle, etc. Et de ce fait, on ne va pas aborder la lutte contre la pauvreté de la même façon.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Pierre
Chastruc ? Non, c'est un aspect pratique. Ce n'est pas le chiffre de 25, c'est surtout le fait qu'on ait, on était en quatre tables, c'est-à-dire des tables de 6, ce qui est l'idéal pour permettre à chacun de s'exprimer.
Voilà,
très particulier. Hein. Est-ce qu'on va répéter le 30 là.
Et peut-être qu'on peut aussi dire que nous savons que le podcast qu'on a évoqué a été vu 150 fois. Ça, on peut le compter. Et donc, c'est aussi un certain succès de se dire que 10 minutes ont été consacrées par 150
parmi
personnes.
Parmi ces 150 personnes, peut-être qu'il y en a qui viendront pour la seconde journée là, donc, du 30 juin. Donc, après être revenu sur ce premier mardi des semaines sociales de Toulouse, consacré au thème démocratie-pauvreté, nous allons faire l'habituelle pause musicale dans cette émission. Ensuite, nous présenterons le second mardi, celui du 30 juin, dédié au thème démocratie-écologie. La récente encyclique du pape Léon XIV, Magnifica Humanitas, se conclut par le Magnificat, cette prière à la Vierge Marie, qui a inspiré de nombreux compositeurs. Alors, je vous propose d'écouter le Magnificat de Marc-Antoine Charpentier. C'est une version de l'Orchestre des Passions de Montauban, dirigée par Jean-Marc Andrieux.
Présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Seconde partie de ce Vivante Église pour laquelle je retrouve les invités de ce numéro, Marie-Christine Monnoyer, Pierre Chastrus et Hervé Schindler, tous trois membres des Semaines Sociales de Toulouse. Nous avons évoqué en première partie d'émission le nouveau rendez-vous que vous organisez depuis ce mois de juin, les mardis des Semaines Sociales de Toulouse. Celui du 2 juin était consacré au thème démocratie et pauvreté. La prochaine rencontre, démocratie et écologie, a lieu le mardi 30 juin. C'est donc de 18h30 à 20h à la salle Claret, 2 place de la Patte d'Oie à Toulouse. Ces rencontres sont ouvertes à tous, sur inscription préalable de préférence, mais enfin, ce n'est pas obligatoire. Comment vous allez aborder ce deuxième sujet? Ça va être encore sous la forme de petits groupes. Hein. Pierre Chastrus, vous avez l'air d'y tenir, à ce que ce soit des petits groupes de 5-6 personnes.
Tout à fait, tout à fait. L'essentiel, effectivement, c'est de permettre aux personnes de se rencontrer. Ce n'est pas forcément les habitués de ceux qui étaient le mardi précédent, mais rien ne l'interdit.
Hein. On peut fidéliser, c'est mieux.
Voilà, tout à fait. Et c'est par contre de dire en quoi donc, cette question de l'écologie les interpelle et quel lien ils font avec l'exercice démocratique, qui va arriver d'ailleurs dans quelques temps, hein, et surtout dans leur vécu. Je me permets de renvoyer à la capsule qui a été faite donc déjà, pour voir justement comment les personnes sont bousculées dans leurs pratiques professionnelles, comment dans leur vie personnelle également elles essaient de réagir, et avec justement un enrichissement réciproque de ce que chacun... Donc,
il y a l'aspect partage d'expérience voilà. aussi. Hein.
Alors qu'effectivement, on est d'une part dans un climat d'abstention sur le plan politique, on l'a vu aux dernières élections, et on est également dans un climat un peu désespéré par rapport à l'écologie. Hein. Je me souviens de l'époque donc, où le président Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Donc parfois ça brûle juste à côté d'ailleurs. Hein.
Oui.
Mais effectivement, on a le sentiment que ça nous dépasse cela. Voilà. Alors que on est 8 milliards oui. et on peut réagir.
Alors je pense qu'effectivement sur ce sujet de l'écologie, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont absolument pas de prise sur l'évolution des choses, qu'ils subissent complètement mais qu'ils ne peuvent pas participer. Marie-Christine Monnoyer, pour cette table ronde-là sur le sujet démocratie et écologie, on peut tout à fait participer sans être un spécialiste de la question écologique, de l'environnement ou de la nature de manière générale.
Évidemment.
Il faut être sensible au sujet.
Évidemment, et cette fois-ci, nous mettons l'accent sur cette fameuse définition de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple. C'est une vieille définition.
Oui. Hein.
Elle est américaine d'origine.
Oui, hein. Elle est souvent oubliée.
Elle est souvent oubliée. Et en fait, en reprenant cette définition, on voit qu'il y a déjà eu des rencontres qui ont permis à des citoyens de proposer des solutions. C'est la fameuse rencontre citoyenne où 150 personnes tirées au sort, etc., ont proposé des solutions. D'aucuns ont dit « oui, mais ça n'a servi à rien puisque tout n'a pas été accepté ». Actuellement, 60% des propositions qui avaient été faites par cette convention citoyenne ont été mises en œuvre. 60%, ce n'est pas 100%, mais c'est nettement
mais c'est
plus.
Que rien, évidemment.
Mais c'est beaucoup mieux que rien. Et puis, surtout, dans cette réflexion sur l'écologie, il y a une dimension personnelle auquel, quand il fait chaud comme aujourd'hui, personne ne peut être véritablement insensible. Alors, ce que dit dans le podcast, en particulier la jeune femme qui évoque son parcours vers la question écologique, ce qui m'a impressionné dans son discours, c'est de dire, au fond, j'ai pris une question qui m'interpellait et ça m'a fait bouger sur beaucoup d'autres questions. C'est-à-dire que cette problématique écologique, elle nous touche tous à un endroit ou à un autre. Et donc, elle nous permet à tous d'agir. On est quelque part des colibris, mais beaucoup de colibris, ça peut faire des actions. Et puis, bien entendu, il y a le niveau supérieur, où bien, les décisions qui vont être prises au niveau national, elles sont prises par des députés, des maires, des collectivités locales, et nous avons tous des relations avec les maires, les députés, les collectivités locales.
Donc il faut regarder ce qu'il y a dans leur programme sur la partie écologique, environnement, lutte contre le réchauffement climatique, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
On peut même aller plus loin. Au niveau des collectivités locales, ils viennent d'être élus et dans chaque mairie, est en train de s'établir les programmes des 6, voire 7 années qui viennent.
C'est les 7, oui, oui.
Voilà. Et donc, il y a des choses qui peuvent être décidées au niveau local, dont les citoyens sont très proches.
Oui. Et parfois, il y a certaines collectivités, certaines communes qui organisent des rencontres où chacun peut venir s'exprimer, apporter ses idées. Mais là, il faut être attentif. Donc, il faut s'intéresser aussi à la vie démocratique locale. Hervé Schindler, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle table ronde sur le sujet démocratie et écologie ?
Alors moi, je suis très optimiste sur cette table ronde, même si les gens, les personnes souvent agissent différemment. Même dans ma famille, je le vois, il y en a qui sont vraiment touchés par l'écologie. Ils ont tout de suite réagi, mes enfants, il y en a qui ont réagi très très vite sur le tri des déchets, d'autres beaucoup moins, suivant le lieu où ils habitent. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est quand même que les choses avancent dans le bon sens. J'ai vu un document de l'INA qui est assez ancien, avec Haroun Taziev, je pense que ça dit à pas mal de personnes.
Les moins de 20 ans peut-être pas. Mais...
Les moins de 20 ans, enfin un vulcanologue quand même qui était assez...
Personnage assez truculent aussi.
Hein. Assez truculent, il était dans une émission et il commençait à dire, donc ça devait être dans les années 70 peut-être, que ben il faudrait faire attention au réchauffement climatique. Et le journaliste en face disait ben, attendez monsieur Taziev, vous allez faire peur aux téléspectateurs. Et ça passait tout seul et tout le monde rigolait. Et aujourd'hui, ça a terriblement évolué. Par des petits pas de chacun, on a pris conscience de beaucoup de choses. Il y en a encore qui n'ont pas conscience des problèmes qu'il peut y avoir et de l'impact que l'humanité a sur la planète. Mais ça avance. Et moi, ce que j'attends beaucoup de ces petits ateliers, tables rondes, suivant le nombre, on a une boîte à outils pour pouvoir faire participer tout le monde dans des petits groupes et que tout le monde puisse partager. J'attends vraiment beaucoup qu'il y ait des échanges de bon sens, de bonnes pratiques, des choses qui peuvent se faire, aussi effectivement vis-à-vis des enjeux locaux, nationaux, mais d'avoir aussi quelque chose de plus international, parce que de plus en plus, les gens ont quand même des contacts dans d'autres pays et peuvent faire bouger les choses plus loin. Moi, personnellement, j'ai des enfants dans des pays étrangers, j'ai des amis qui ont des enfants de l'autre côté de la planète, et ça ne réagit pas de la même façon. Donc, pour moi, il n'y a pas simplement un enjeu d'élection locale, il y a simplement, quand vous disiez, est-ce que vous nous demandez de regarder les programmes écologiques des candidats ?
La partie écologique, d'un programme, s'il y en a une.
Voilà, parce qu'il y a aussi sur la pauvreté, sur la jeunesse, sur l'information,
oui, beaucoup d'autres sujets tout aussi urgents.
Tout ça, moi, ce qui me semble important, c'est que la prise en compte... avec beaucoup de sens de la complexité de ce qui nous attend, et pas simplement des solutions toutes faites. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces réunions et ces podcasts, c'est pour montrer que chacun, même sans être expert, a des choses à mettre en œuvre personnellement.
Est-ce qu'il y aura des questions qui vont être posées, en plus du sujet général, pour un peu guider les échanges dans chacun des groupes qui vont se former le 30 juin autour de ces tables, donc 5 ou 6 personnes?
Ce qui est sorti du podcast qui donc est maintenant en ligne, c'est en particulier le rôle de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc de la façon dont une des questions de notre quotidien est traitée via la problématique écologique. Je pense que cette question-là va évidemment apparaître. D'abord parce que l'agriculteur qui était dans notre podcast sera présent. Et donc, il a la capacité d'expliquer les tenants et les aboutissants du problème écologique pour un agriculteur. Donc, je pense que cette question-là va être très sensiblement abordée.
Il explique aussi à quelles contraintes, lui, il est confronté et comment il doit se débrouiller avec ça, comment il tient, comme on dit, les deux bouts de la ficelle, ne pas trop dénaturer son environnement, mais aussi, il faut produire. Et puis, il faut qu'il puisse vivre de son métier. C'est très compliqué pour eux, il n'y a qu'eux qui peuvent l'expliquer ça.
Voilà, et comme c'est un ingénieur agronome aguerri qui habite dans notre région, il a une façon d'expliquer son métier qui est intéressante et interpellante. Je ne veux pas tout dévoiler, mais à mon avis, il va être très très touchy.
Et ce sera très concret. Pierre Chastrus.
Et ce qui est également interpellant, je pense, pour tous, c'est également le rôle que chacun a, notamment la mère de famille, pour justement essayer de respecter la nature et les producteurs, et en même temps faire face à ces contraintes financières. Voilà. Et en essayant de se renseigner. Donc je crois que, et dans l'entourage, c'est-à-dire que je pense qu'on débouchera avec un souci. Alors là, on va être d'ailleurs, par exemple, là, ces jours-ci, c'est les fêtes des voisins. Mais effectivement, ça fait partie de l'écologie. Ce n'est pas un domaine simplement technique. Et je m'étais permis de relire la dernière lettre du pape, hein, qui nous dit que donc, tout, pas seulement l'intelligence artificielle, doit être évalué à la capacité de faire grandir les personnes en humanité et en fraternité.
Oui, c'est la question de la dignité humaine tout le temps.
Voilà, et dans le respect de la maison commune et des générations futures. Effectivement, il faut qu'on passe à demain et après-demain.
Alors, vous abordez un sujet que je voulais mettre sur la table, c'est que le rapport à l'écologie, bon, il est question tout simplement de l'avenir de notre planète et donc de l'humanité. Et évidemment, quelqu'un, pardonnez-moi de dire ça, mais quelqu'un qui est plus près de la fin de sa vie que quelqu'un qui est au début n'a pas la même vision, forcément. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça qu'il faudrait, et ce serait intéressant, qu'il y ait toutes les générations autour de la table pour parler de ce sujet de l'écologie. Hervé Schindler.
Ah oui, tout à fait, c'est vital. Et justement, de les faire échanger entre elles, c'est ça qui est nécessaire. Mais là, j'ai participé récemment à un concours d'illustration dans le jury. Et c'était très intéressant de voir des plus jeunes aux plus anciens. On avait des participants de 6 ans qui avaient fait des petites choses, et puis des gens de plus de 80 ans qui avaient fait des choses aussi, et puis des gens de 40, 30, 40, 50 ans. Et on s'est aperçu que les plus jeunes et les plus anciens étaient les plus optimistes. Et tout ce qui était dans la gamme moyenne, on va dire, voilà, nous avait fait des choses qui étaient vraiment assez consternantes, qui posaient question, peut-être un regard très noir sur le futur, alors que les plus anciens et les plus jeunes étaient positifs. Donc je pense qu'il y a une rencontre, et je pense qu'il y a un ressort terrible que peuvent prendre les jeunes avec l'expérience des plus anciens, parce qu'ils partagent un optimisme.
J'ai envie d'ajouter un point, c'est que les gens qui sont les plus anciens, ce sont aussi ceux qui ont très souvent les meilleures pratiques parce qu'elles viennent de loin. Parce que quand ils avaient 10 ans, quand ils avaient 20 ans, leur niveau de vie était beaucoup plus faible et ils étaient très économes. Ils étaient très attentifs à leur nourriture. Les grands-mères savent encore faire des plats avec les restes, alors que les plus jeunes ne le savent pas. Les grands-mères et les grands-pères ont pris l'avion souvent la première fois quand ils avaient 50 ans, et pas du tout quand ils en avaient 15 ou quand ils en avaient 20. Ce qui veut dire que cette connaissance des conséquences d'une surconsommation en particulier, elle est beaucoup mieux comprise par les plus anciens parce qu'ils n'ont pas toujours surconsommé.
Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent pour leur donner envie de participer à ces rencontres des mardis, notamment à ceux qui sont intéressés mais qui hésitent à franchir le pas par timidité ou parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont à dire, comme le disait Hervé Schindler en première partie de l'émission, n'est pas très intéressant. Hervé Schindler.
Oh, moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'ils ont une parole d'expert de leur vie et qu'ils peuvent la partager avec les autres personnes qui sont aussi expertes de leur vie, et on a la même vie sur la même planète. Et il faut partager nos
expériences,
nos pensées,
nos
expériences au quotidien. Et c'est un enrichissement, c'est ce qu'on disait. Hein. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, et ben, nous on l'a plus et la personne l'a. Quand c'est du savoir ou un échange de paroles, et ben, les deux l'ont.
Pierre Chastrus.
Oui, je pense que dans cette période-ci, effectivement, on a besoin d'entendre la parole des autres et une parole diverse. Donc c'est l'intérêt de ces petits groupes de discussion qui permettent d'apporter des expériences différentes et donc tout à l'heure on a bien dit de s'enrichir et puis d'avoir peut-être un peu plus d'espérance sur ce que l'on peut faire, ce que l'on a comme perspective, avec également ce qu'il y a eu dans le passé qu'on a tendance à oublier parce qu'on vit dans l'immédiateté.
Marie-Christine Monnoyer.
Moi, je pense qu'ils aient la gentillesse d'aller écouter notre podcast pour se rendre compte que leur parole est encore différente de celle des 3 personnes qui sont interviewées sur ce podcast et que dans ces conditions, leur parole nous intéresse.
Est-ce qu'il y a un compte-rendu qui est fait de chaque rencontre?
Oui. Le compte-rendu est envoyé à tous ceux qui étaient là.
Et ça sera éventuellement envoyé plus tard aux Semaines Sociales de France.
C'est évidemment envoyé aussi aux Semaines Sociales de France. C'est aussi envoyé au diocèse, qui, pour ce qui concerne la pauvreté, en a déjà tiré, m'a-t-il dit, la substantifique moelle.
Si j'ai bien compris, il y aura d'autres mardis, alors peut-être plutôt à partir de la rentrée ou dès le mois de juillet ?
Non, il y en aura. C'est pour ça qu'on l'a mis le 30 juin, pour que ce ne soit pas en juillet. Et donc, il n'y en aura pas vraiment en juillet, mais vous voyez le 30 juin. Et le premier aura lieu le premier mardi de septembre, le 8 septembre, je crois.
Et quels seront les thèmes abordés ?
Démocratie et jeunesse, puisque ce sera la rentrée.
Oui, ce sera la rentrée. Il y aura toujours démocratie dans tous les thèmes qui
seront
abordés ? Systématiquement.
Systématiquement.
Voilà. Et donc, vous comptez faire ça au moins une fois par mois, de septembre à juin ? Là, il y en a eu deux au mois de juin, mais c'était le lancement.
Voilà. Donc, celui de septembre, d'octobre, de novembre sont déjà dans les tuyaux.
On en reparlera ultérieurement. N'anticipons pas, mais en tout cas, on note qu'il y aura déjà un prochain rendez-vous au mois de septembre. Bien, nous allons conclure cette émission. Merci infiniment à tous les trois d'y avoir participé. Merci de nous avoir présenté les mardis des Semaines Sociales de Toulouse. Le prochain, donc, lieu le 30 juin de 18h30 à 20h à la salle Claret. Deux places de la Patte d'Oie à Toulouse. Il est consacré au thème démocratie et écologie et ouvert à tous. Le mieux, c'est de s'inscrire au préalable. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse semsoc@free.fr. Semsoc, c'est S-E-M-S-O-C. Il est possible aussi de se renseigner sur le site du diocèse de Toulouse, www.toulouse.catholique.fr. Et puis, il y a la chaîne YouTube des Semaines Sociales pour regarder le podcast et donc préparer sa participation à la rencontre. Ce numéro était animé par Eric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.